Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le 30 octobre dernier, on fêtait le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski. Si pour nous, l'auteur de Crimes et Châtiments est le peintre des tourments de l'âme, pour le russe, il est l'écrivain descendu aux enfers, prophète des horreurs du XXe siècle. Le génie de Dostoïevski a connu une jeunesse chaotique. Après le succès de son premier roman, Les pauvres gens, sa vie va basculer lorsqu'un matin d'avril 1849, la police vient l'arrêter pour son implication dans la société secrète de Petrachevski, groupe connu pour ses idées politiques subversives. Le tocsin sonne pour le jeune écrivain âgé d'à peine 28 ans. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce nouvel épisode en deux parties. Nous sommes au printemps 1849 dans un appartement du centre de Saint-Pétersbourg, non loin de la perspective Nevski. Dans le salon d'une trentaine de mètres carrés, une vingtaine de jeunes gens discutent bruyamment. Une épaisse fumée de cigares stagne au plafond. Il est tard. Comme chaque samedi depuis 3 ans, la société secrète créée par Petrachevski se réunit là, à la tombée de la nuit. Les hommes et femmes qui composent le groupe viennent de tous les horizons. On trouve des fonctionnaires, des étudiants, des médecins, des philosophes, mais aussi de simples artisans. Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui veulent obtenir la refonte du système de gouvernement qui, depuis le tsar Ivan le Terrible, tient le pays avec brutalité. Si les idées socialistes de Fourier ont inspiré la plupart des partisans d'un radical changement de régime, c'est surtout la Révolution française qui fascine ceux qui veulent en découdre avec l'autocratie en place. Parmi les tsars qui se sont succédés à la tête de toutes les Russies, il en est un qui s'est présenté sous un jour étonnamment libéral, Alexandre Ier. Ouvert aux idées nouvelles, amoureux de la France, il s'est intéressé très tôt à la tournure démocratique prise par certains pays d'Europe. Les idéaux des droits de l'homme le touchent. Lorsqu'il meurt, le nouveau tsar Nicolas Ier hérite d'un pays que travaille déjà l'aspiration à l'égalité. Le principe de l'autocratie, avec son amalgame de terreur et d'absurdité si caractéristique d'une certaine Russie, forme avec le servage deux piliers d'un ancien monde devenu odieux à tous. Une première révolte a secoué le pays dans les années 1820, sévèrement réprimée par Nicolas Ier. Ce tsar a hérité de son père Paul Ier une forme aiguë de paranoïa qui exacerbe un culte de l'autorité religieuse et politique poussé à la caricature. Pour ceux qui, parmi le peuple, espéraient un changement de régime, les espérances nées avec Alexandre Ier sont bel et bien enterrées. Et comme la France reste pour tous les Russes une référence absolue, dans tous les domaines, on se réunit en société de pensée, on publie des articles subversifs, donnant à Saint-Pétersbourg, en ces années du milieu du XIXe siècle, le visage du Paris de 1740. On discute, donc on fume, on boit beaucoup, chacun y va de son projet politique personnel, aussitôt contredit par un projet concurrent, censé être plus réaliste ou plus radical, l'originalité touchant parfois au farfelu.
Mais tant consacré entièrement à l'étude de l'organisation de la société de l'avenir qui doit remplacer la nôtre, je suis arrivé à la conviction que tous les créateurs de systèmes sociaux, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, ont été des rêveurs, des conteurs de sornettes, des sots qui se contredisaient eux-mêmes et ne comprenaient rien aux sciences naturelles et à cet étrange animal qu'on appelle l'homme. Platon, Rousseau, Fourier ne sont que des colonnes d'aluminium. Ils sont bons tout au plus pour les moineaux et non pour les hommes. Or, comme les formes sociales de l'avenir doivent être fixées précisément maintenant, quand enfin nous nous sommes tous décidés à passer à l'action sans hésiter, je propose mon système d'organisation du monde. Je dois vous prévenir que mon système n'est pas complètement achevé. Je me suis embrouillé dans mes propres données et ma conclusion se trouve en contradiction directe avec l'idée fondamentale du système. Partant de la liberté illimitée, j'aboutis au despotisme illimité.
C'est en ces termes que s'exprime Dostoïevski à propos du leader de cette organisation, Petrachevski. Durant les 4 années que perdurèrent ces réunions, aucun attentat ne vint troubler la quiétude du tsar. Si les membres de la société Petrachevski étaient sans doute animés par de nobles idées, un de ses anciens adeptes, l'écrivain Stalikov Chedrin, en fera une description calamiteuse, affirmant qu'on ne trouvait là qu'un ramassis d'incapables et de ratés, velléitaires, parfois même complètement imbéciles et dépourvus de toute capacité d'organisation. Le fait est qu'ils se laissèrent infiltrer le plus facilement du monde par les espions de la police tsariste qui ne tarda pas à attendre le moment propice pour les rafler en un seul coup de filet. Et parmi eux se trouvait pourtant un jeune homme promis à un destin extraordinaire, Fyodor Mikhailovich Dostoïevski. En 1849, au plus fort de son implication dans le groupe Petrachevski, il a déjà un passé d'écrivain prometteur. Son premier roman, donc « Les pauvres gens », a enthousiasmé et le public et la presse. On a parlé d'un nouveau Gogol.
Des nouvelles d'un nouveau génie, M. Dostoïevski, circulent à Saint-Pétersbourg. Nous ne savons pas s'il s'agit de son vrai nom ou d'un pseudonyme. Le public de lecture loue son nouveau roman, « Les pauvres gens ».
Puis l'hystérie est tombée d'un coup. Les publications suivantes ont même été de cuisants échecs. Des écrivains comme Tourguenieff se moquèrent ostensiblement de lui, d'autant que ce dernier, au plus fort de son succès, s'était montré arrogant, pédant, fanfaron à l'envi. Le jeune premier porté au nu dut redescendre sur terre et quitter les salons pétersbourgeois sous les huées. Déchu, misérable, frappé d'épilepsie depuis l'assassinat de son père par ses serfs, il n'en a pas moins continué à écrire et fréquente plus que jamais la société secrète de Petrachevski. Il explore inlassablement ses thèmes de prédilection que sont la misère et le crime, tout en cherchant à participer à la construction d'un monde meilleur. Mais au mois d'avril 1849, sa vie va basculer, les membres du groupe sont trop bavards, les conversations bien arrosées, tenues sans méfiance en présence des espions de la police, ont été rapportées au tsar. Le 23 avril 1849, la police pénètre dans les domiciles des 35 membres du groupe de Petrachevski, parmi eux, Dostoïevski.
Selon l'ordre suprême du tsar, je vous ordonne d'arrêter Fyodor Mikhailovich Dostoïevski, lieutenant et artiste littéraire, à 4 heures du matin, de sceller tous ses papiers, manuscrits et livres, et d'expédier immédiatement tous ses documents, ainsi que le surnommé Dostoïevski, à la 3e section de la police royale de Sa Majesté. Si Dostoïevski prétend que certains documents appartiennent à d'autres personnes, ignorez ses déclarations et scellez également ses documents.
Arrêté pour critique abusive de l'Église orthodoxe et propagande anti-gouvernementale, Dostoïevski est conduit à la forteresse Pierre et Paul. L'instruction va durer 7 mois. Le 19 décembre, il apprend, avec 20 autres accusés emprisonnés avec lui, qu'il est condamné à la peine de mort par balle. 3 jours plus tard, le 22, aux aurores, les condamnés sont amenés sur la place Semyonov de Saint-Pétersbourg, lieu de l'exécution de leur peine. On fait lecture de la sentence de mort. Un pope présente un crucifix aux lèvres de chacun des condamnés. Dostoïevski, ayant le grade d'officier, on le dégrade officiellement en brisant son épée au-dessus de sa tête. Puis on l'attache au poteau d'exécution, à côté de ses compagnons d'infortune.
Il allait mourir à 27 ans, plein de santé et de vigueur. Près de là s'élevait une église dont la coupole dorée brillait sous le soleil éclatant. Il se rappelait avoir fixé avec une terrible obstination cette coupole et les rayons qu'elle réfléchissait. Il ne pouvait pas en détacher les yeux. Ses rayons lui semblaient être cette nature nouvelle qui allait être la sienne, et il s'imaginait que dans 3 minutes, il se confondrait avec eux. Son incertitude et sa répulsion devant cet inconnu qui allait surgir étaient effroyables. Mais il déclarait que rien ne lui avait été alors plus pénible que cette pensée. « Si je pouvais ne pas mourir, si la vie m'était rendue, quelle éternité s'ouvrirait devant moi? Je transformerais chaque minute en un siècle de vie. »
C'est ainsi que dans L'Idiot, Dostoïevski racontera cette scène de l'exécution. Les soldats du peloton d'exécution mettent leur fusil en joue. Il ne reste plus que quelques secondes de vie à Dostoïevski. Le tambour retentit soudainement. Un messager vient d'arriver, porteur d'un ordre venu de l'autorité suprême. L'inimaginable vient de se produire. Le tsar, désireux de leur donner une chance, a donné l'ordre de gracier les condamnés et de commuer leur peine en travaux forcés. Cet épisode va marquer Dostoïevski de manière indélébile et faire de lui un homme nouveau. Le coup de théâtre n'était pas fortuit. Il avait été préparé par le tsar lui-même, qui voulait donner une leçon à ces jeunes gens à l'esprit dévoyé en leur procurant la frayeur de leur vie. La peine de Dostoïevski est commuée en 4 ans de travaux forcés à Omsk, suivie de 5 ans de service militaire en Sibérie orientale. Avant même d'avoir commencé à purger sa peine, Dostoïevski éprouve un sentiment de liberté étourdissant. Il se sent déjà un délivré vivant. Non seulement il n'est pas mort, mais en allant au bagne, il peut échapper à cette vie pétersbourgeoise qui lui était devenue insupportable. L'écrivain déchu n'avait plus rien à y trouver. Le convoi quitte Saint-Pétersbourg le 24 décembre. Le voyage va durer un mois. Ses compagnons de misère s'étonnent de voir Dostoïevski chanter des cantiques d'un air presque guilleret et faire fi des fers de 5 kilos qui entravent ses pieds. On passe par les grandes villes de l'Empire, Tver, Nijni Novgorod, Kazan, Perm. À Tobolsk, les condamnés reçoivent la visite de quelques épouses de décabristes, ces révolutionnaires des années 20 que le tsar avait châtiés sans pitié. Elles ont suivi leurs époux en exil et vivent là, en plein cœur de la Sibérie, depuis 25 ans. L'une d'entre elles va donner à Dostoïevski un livre dont il ne se séparera jamais, les Évangiles. Une chance, c'est la seule lecture autorisée au bagne. Les jours passant, Dostoïevski se fait remarquer par son entrain et l'espérance qu'il essaie d'insuffler à ses compagnons. Certains pensent au suicide, il discute avec eux des heures durant pour les en dissuader. Sa vie nouvelle a déjà commencé. Avant de partir, alors qu'il était encore à pleurer de joie à l'idée de pouvoir vivre encore, il avait écrit
« Je ne suis pas abattu, je n'ai pas perdu courage. La vie est partout la vie. La vie est en nous et non dans le monde qui nous entoure. Près de moi seront des hommes. Et être un homme parmi les hommes et le demeurer toujours, quelles que soient les circonstances, voilà le véritable sens de la vie. »
Le 23 janvier 1850, au plus froid de l'hiver, alors que la température descend au-dessous de moins 30, Dostoïevski arrive devant l'immense palissade de pieux nouée de fer qui ferme la maison de force de Omsk. Selon son témoignage, il n'éprouve nulle véritable angoisse, mais plutôt une forme de curiosité, comme le serait celle d'un explorateur qui découvre un nouveau pays. S'il sait qu'il va trouver là les pires des criminels, il ne doute pas un seul instant que l'expérience qu'il va vivre va lui apporter les réponses qu'il attend aux interrogations qui le torturent sans répit, qu'il s'agisse de Dieu, du peuple, de la vie, de la mort. Réponses qui ne lui avaient pas été données dans les appartements confinés de Saint-Pétersbourg où l'essentiel disparaissait dans le tumulte des interminables joutes verbales. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré à Dostoïevski.